Crossroads, l'émission qui s'intéresse à toutes les musiques et qui donne la parole à celles et ceux qui les font vivre et prospérer. Une fois n'est pas coutume, Crossroads s'ouvre à l'esthétique du jazz tel qu'il se présente et se vit à l'heure actuelle, selon ce que j'ai pu en percevoir ces derniers mois. Ainsi, une rencontre fut révélatrice, une interview réalisée avec le trio Émile Londonien, adepte d'une fusion très personnelle, en écho avec les sons issus de la capitale britannique, Émile Londonien rencontré à la cordonnerie de Romans le 13 mars dernier. Pour les accompagner dans cette émission, nombre de musiques proches de leur démarche, possédant chacune sa spécificité, sa sensibilité, ainsi que son originalité. Ainsi, entrée en matière immédiate avec Snarky Puppy, le groupe de fusion jazz le plus excitant en live ces dernières années, constitué des pointures ayant joué avec les plus grands à l'instar de Prince. Originaire de New York, le groupe a pourtant du mal ces derniers temps à se renouveler sur plan discographique, même s'il reste incontournable. Démonstration percutante avec ce Bigly Struckness, extrait de l'album Immigrants, paru en 2019. We'll be right back. Autre star incontestable, ayant connu son apogée artistique au cours des années 80-2000, le violoniste Jean-Luc Ponty, qui a bâti l'essentiel de sa carrière à l'international, principalement aux États-Unis. D'abord connu pour son implication auprès de Frank Zappa, il s'illustra auprès des stars du jazz-rock, apporta au violon les effets électroniques, en parallèle avec les recherches de son de DJ LeCoud. Je vous propose d'écouter le titre « Gift of Time », que l'on retrouve dans son album Live at Chin Park, Chicago, enregistré en 1996.
Thank you.
suivre le groupe de Manu Katché Zoskope, Manu Katché batteur de jazz, mais pas que, puisqu'il joue, il joue toujours d'ailleurs avec des artistes de renommée mondiale, parmi lesquels Tears for Fears, Sting et évidemment Peter Gabriel. Sting invité par Manu sur la tournée One Shot Not, notamment en juillet 2021 dans le cadre du festival de jazz à Vienne. Titre proposé, Tricky 98. Voici déjà 5 ans que le trio Émile Londonien trace sa route, unique et inspirante, dans le paysage jazz actuel. Émile Londonien propose une musique apte à plaire au plus grand nombre, grâce à ses approches multiples, tantôt académiques, tantôt électroniques ou groove, house, en référence directe au son du jazz britannique actuel. Les divers invités sur leur dernier album contribuent à la diversité de ce jazz décomplexé et servi par d'excellents musiciens. Issu de la scène strasbourgeoise et du collectif Omesis, le groupe s'est ouvert des portes sur Londres via la BBC grâce à Gilles Peterson. Ayant déjà eu l'opportunité de jouer sur des scènes prestigieuses, Émile Londonien posait ses valises pour un soir à la Cordeau, c'était le 13 mars dernier. Pour en savoir plus, je vous invite à partager l'interview réalisée à cette occasion. Et sans plus attendre, voici un extrait de l'album Inwards, intitulé Inside. Thank you. Bonjour Émile Londonien.
Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Est-ce qu'on pourrait commencer par une petite présentation du trio, hein. Vous êtes trois, évidemment.
Ouais, du coup, on est Émile Londonien, donc on est un trio qui vient de Strasbourg, en Alsace. On fait de la musique depuis... Alors, le projet existe depuis 2021, donc on fête les 5 ans, là, en ce moment. Mais nous, on fait de la musique ensemble depuis une dizaine d'années, autour des esthétiques jazz, au sens très large, très ouvert et très moderne. Émile Londonien, c'est un projet où on mélange notre approche de l'improvisation avec des influences qu'on est allé chercher par ailleurs, quoi. Donc la musique électronique, le hip-hop, la soul et plein d'autres choses.
Alors toi, tu officies en tant que...
Moi, je suis bassiste du groupe.
Et guitariste également, non?
Un petit peu, mais...
surtout bassiste.
Ouais, surtout bassiste, oui.
Alors moi, je suis batteur.
Moi, je suis pianiste. Et toutes sortes de claviers, c'est vrai. Et synthé et tout ça, ouais, carrément.
Ouais, parce que piano, ce serait trop réducteur.
Exactement.
En ce qui vous concerne. Hein.
Mm-hmm. Oui, c'est vrai.
Ouais. Alors, j'ai envie de commencer par... vous êtes un trio, évidemment. Sur scène, trio, stricto sensu. Mm-hmm. Compte sur disque... pléthore d'invités, c'est ce qui marque la différence. Alors comment que vous arrivez à reproduire tous les sons que vous avez la chance de capter en disque sur scène? Donc, il manque les soufflants, par exemple.
Oui, écoute, c'est une bonne question. Comme disait Théo, nous, on vient du collectif, donc la musique, on l'a toujours partagée et échangée avec soit les gens, les membres du collectif, mais aussi avec Émile Londonien. On a pu avoir l'occasion de faire des collaborations plus larges, que ce soit en France, mais aussi avec des artistes anglais qu'on admire et qu'on adore. Et ensuite, alors ça arrive que sur scène, on invite aussi des gens. Et d'ailleurs, sans spoiler, c'est le cas ce soir parce que on invite Astels, qui sont de très bons amis qu'on a rencontrés lors de cette tournée et avec qui là on va aussi forcément partager un moment à la fin du set. Voilà. Donc en fonction d'où on va et de qui est là, ça nous arrive de pas se limiter au trio sur un set entier d'Émile Londonien. Même si le trio c'est énorme parce que c'est la formation qui nous permet à la fois nous d'être dans cet interplay qu'on adore, dans lequel on adore être, et puis mais évidemment ça laisse aussi de la place à des mélodistes, comme tu disais, des vents, des soufflants, de la voix, des percussions, d'autres machines que je maîtrise pas moins, par exemple, ça peut être plein de choses.
Je fais référence à un journaliste chroniqueur de Jazz Mag qui disait à propos de Legacy, votre premier album, musique susceptible de s'adresser à tous les amateurs de jazz, y compris aux plus jeunes, ça c'est important également, via des hybridations naturelles et très diverses. Ça vous convient toujours, ça, je crois que c'est le cas de Inwards également. Hein.
Ouais, c'est un peu l'essence même de ce projet, de pouvoir parler à un public éclectique. Nous, notre musique, elle est, c'est, comme Théo le disait, c'est une hybridation entre à la fois une culture et une histoire qui vient du jazz, mais aussi des musiques avec lesquelles on a grandi. Nous, on est des enfants des années 90, donc on a grandi fatalement avec la musique électronique, le hip-hop, et ça se ressent dans notre musique. Et du coup, je pense que ça parle aussi à une génération qui a grandi et qui a les mêmes références que nous. Donc c'est la beauté de cette musique-là et du jazz d'aujourd'hui, mais c'est la beauté du jazz depuis toujours, c'est de pouvoir s'influencer des musiques qui l'entourent au moment où elle est faite, au moment où elle est créée. Et du coup, aujourd'hui, nous, on a la chance de pouvoir parler à la fois à un public qui a grandi avec nous, donc plus jeune, et un public qui aime le jazz. Parce que dans toutes ces musiques-là, il y a des filiations, toutes les générations peuvent se reconnaître dedans, que ça soit... alors les jeunes, ils vont se reconnaître dans des musiques, par exemple la house. Des personnes un peu plus âgées vont y retrouver peut-être des filiations qui remontent au disco, voire au funk, à la soul. Pareil pour le hip-hop, c'est des musiques qui ont subi des mélanges. Et tout ça, ça se ressent, et c'est pas une histoire de génération, mais je pense que toutes les musiques peuvent porter cette chose-là. Le jazz, peut-être encore plus. C'est la beauté de cette musique.
Ouais, effectivement. C'est vrai que les jeunes se tournent de plus en plus vers certains jazz, on va dire, ce qui est une très bonne nouvelle d'ailleurs. Je pense à des gens comme Pogo Penguin ou Snarky Puppy. Mm-hmm. Un exemple à Vienne, je me souviens quand ils sont passés, Snarky, là, c'était assez clairsemé. Et d'un coup, 20 minutes avant que leur concert démarre, les arènes se sont remplies, mais alors d'une façon de dingue. Comme quoi, il se passe vraiment quelque chose, quoi. C'est sympa, ça.
Ouais, bah en plus là c'est des groupes qui ont su évoluer avec leur époque, c'est-à-dire exploser notamment sur les réseaux, sur Internet, hein, et qui ont su capter les médias qui étaient les leurs au moment où ils étaient là. Donc, mais c'est, ça a été le cas. Encore une fois, hein, cette musique a toujours été. Enfin, peut-être il y a des époques où c'était un peu plus compliqué, mais quand on pense à Miles Davis par exemple, qui est la tête un peu que tout le monde connaît, il a toujours évolué avec son époque, avec les musiciens et les musiques qui l'entouraient, mais avec les médias et les façons et la façon de traiter son image qui était la plus moderne possible. Je crois qu'aujourd'hui, il y a peut-être peut-être c'est un renouveau depuis une 10, 15, 20 d'années. Oui, effectivement, le public se retrouve vraiment là-dedans. Peut-être c'est un peu plus frais en France. Ça fait un peu moins longtemps, comme d'habitude. Il y a eu ça explosé aux États-Unis, puis en Angleterre, puis en France. Mais c'est vraiment, pour nous, c'est un bonheur de pouvoir voir ça et vivre ça de l'intérieur.
Oui, en France, on a les Guillaume Perret, Thomas de Porquerie, enfin, entre autres, hein, ouais, qui portent aussi cette volonté. Par exemple, Guillaume Perret, lui, ses références, elles sont plus lointaines. Il parlerait vraiment de King Crimson, par exemple, mm-hmm, dans ce qu'il a nourri. Enfin, c'est un autre background, en quelque sorte. Mm-hmm. Mais why not, quoi, je dirais tout. Et vous, comment que vous avez eu, venant de Strasbourg, quoi, comment que vous avez eu ce déclic d'aller vers la scène londonienne, ça se fait comme ça naturellement, vous vous êtes dit, allez, on va aller un peu sur place découvrir tout ça, ou c'était une histoire de contact, d'opportunité?
Alors, on est allé sur place bien plus tard, en fait, parce que cette scène, on l'a découvert sur Internet, en fait, via YouTube, via tous les réseaux qu'on a aujourd'hui. Et je pense que pour nous, ça a été une vraie bouffée d'air frais. Donc cette scène londonienne qui explose, enfin qui était présente un peu depuis plus longtemps, mais qui explose vraiment en Europe et en général, quoi, autour de 2015. Nous, c'est un moment où on vit pas encore de la musique, où on sort du conservatoire, où peut-être on se cherche un peu artistiquement aussi, et où on se retrouvait aussi confronté à un milieu du jazz assez conservateur, je pense. Et du coup, où en fait en France, il y a vraiment un truc de, un espèce de cursus qu'il faut respecter. Enfin, on avait cette impression-là à l'époque, qu'il y avait un cursus qu'il fallait respecter pour faire du jazz, passer par une grande école, passer par un grand tremplin, gagner un grand tremplin, tout ça. Chose qu'on n'a pas fait en fait, parce on a fait un conservatoire, mais c'est un petit conservatoire de Strasbourg, mais c'est pas un conservatoire supérieur de Paris, quoi. Et en fait, nous, on s'est heurté à du coup cette génération qui jouait du jazz de manière totalement décomplexée, qui n'avait pas honte de mélanger ses influences, et qui n'avait pas honte de même de jouer ça dans des endroits où en fait le jazz n'était pas forcément présent avant. Des festivals, on pense à Glastonbury, qui est un gros festival en Angleterre, où en fait ils ont tous joué, les Anglais. Donc nous, ça a été vraiment une bouffée d'air frais, et en fait ils nous ont juste montré que on avait le droit de faire ça, que c'était possible. Et du coup, nous, on l'a fait humblement à Strasbourg pendant plusieurs années. Avant de faire ce qu'on fait aujourd'hui, quoi.
Oui, puis il y a les conservatoires, il y a aussi par exemple l'école de DJ Lockwood, ouais, qui forme énormément de jeunes musiciens. C'est peut-être une autre approche encore. En tout cas, ça le mérite d'être là, d'exister. Hein. Et puis il y a eu ce Gilles Peterson. Alors bon, racontez-moi quand même qui apparemment vous a donné un sacré coup de main. Ou on peut encore parler au présent, hein, pas qu'au passé d'ailleurs. C'est qui ce Gilles Peterson, mis à part le fait qu'il bosse à la BBC
c'est déjà pas mal.
Et ben, pour notre histoire avec Gilles Peterson, on sort le tout premier EP d'Émile Londonien, on le sort sur un tout petit label strasbourgeois, mais qui lui a l'habitude d'envoyer ses promotions et ses morceaux à pléthore de DJ de cette scène-là, qui reste une espèce de grande niche, mais où tout le monde communique très bien. Et puis la force de Gilles Peterson, c'est qu'en fait il écoute quand même énormément des propositions. Il ouvre sa boîte mail, un peu peu importe qui lui envoie le mail, quand il a le temps, évidemment. Il est toujours curieux, et donc il y a la BBC, mais il y a aussi sa radio Worldwide FM. Et je pense que les premières fois qu'on est joué, c'est sur Worldwide FM, pas directement par Gilles Peterson, mais par Lefto, je crois, il me semble, qui c'est un peu une grande famille de DJ, modérateurs radio, qui ont tous tous leur émission sur Worldwide, sur la BBC. Et donc oui, ça tombe dans les oreilles de Gilles Peterson, qui lui nous joue sur Worldwide, sur BBC. J'en ai un très bon souvenir avec Gilles Peterson, c'est quand avec Théo on va à Londres pour la première fois ensemble tous les deux. On était par hasard à Londres tous les deux en même temps. Et donc on se fait une heure d'émission au Brownswood Basement, qui est l'endroit où le fameux Gilles Peterson fait toutes ses émissions en direct sur Worldwide FM. Et donc une heure d'interview assez chouette pour la sortie de Legacy à l'époque, il y a 3 ans, 4 ans, voilà. Aussi, on est obligé, quand on parle de Gilles Peterson, de parler de son festival qui est à 7, du Worldwide Festival, qui, dans l'histoire des mille londoniens, c'est un truc très fort parce que c'est notre 3e concert. On le fait là-bas, sur invitation, dans un endroit où toutes nos idoles ont fait leur première fois en Europe. Je pense à des artistes comme Anderson .Paak, je pense à des artistes comme même plus lointains, Jamiroquai, je pense à Bad Not Good, je pense à plein, voilà. Donc Gilles Peterson et puis la programmation du Worldwide Festival nous invite pour notre 3e concert en 2021 à jouer au Théâtre de la Mer à 7, et ça c'est un moment énorme pour nous. Ça c'est énorme. Ouais.
Premier concert après Covid. Ouais. Ah oui, 2021, c'était pas évident. Hein.
Non.
Alors, ce qui veut dire, entre parenthèses, que vous maîtrisez parfaitement l'anglais pour entrer dans les nuances de ce que vous voulez exprimer.
Mmh. Alors, non. Pas forcément, mais ça ne nous empêche pas de communiquer avec
notre...
Oui, une heure en direct, oui. Alors ça, après, il est francophone aussi. Hein. Mais on l'a fait en anglais, l'interview, quand même. On l'a fait en anglais. Il est franco-anglais, en fait. Il est né à Caen, hein, il me semble.
Ouais.
Il est normand. Après, ça fait longtemps qu'il est en Angleterre. Hein.
The sound, the vibe is the music, the vibe is life.
Alors, Inwards, alors je viens de voir qu'il y avait Inwards et Inwards Extended. Ça veut dire que vous avez rajouté des morceaux en cours de route, ou plutôt juste après Inwards, qui veut dire vers l'intérieur, hein, c'est une volonté un peu d'introspection, entre guillemets. Et en même temps, alors ce disque, il y a des morceaux qui sont, alors là je mets des gros guillemets, assez jazz académique, on va dire, enfin, ouais, voilà. Et d'autres avec prédominance plus de clavier, de nappe, qui sont plus atmosphériques, qui voilà, qui proposent autre chose en termes de voyage et d'ouverture possible. C'est bien.
Il y a plusieurs choses. C'est que nous, on conçoit notre musique en faisant cohabiter les esthétiques. Et le concept de voyage, il est très très important pour nous. On a envie de prendre la main de l'auditoire et de l'emmener et de le faire voyager. Et ça, sur chaque disque. Et ce disque-là, Inwards, il parle vraiment de... Effectivement, c'est une introspection, c'est notre deuxième album. C'est un moment très fort pour nous, où le premier album qui a été très important pour nous dans notre construction artistique et qui a plutôt bien marché, qui a trouvé un peu son public. Après une belle tournée qu'on a fait, on se retrouve tous les quatre, parce qu'en vérité on est quatre puisqu'il y a notre ingénieur du son qui fait vraiment partie du projet. On se retrouve tous les quatre en studio et c'est de nouveau une page blanche et on se retrouve confronté à cet ascenseur émotionnel qu'est notre métier et de se retrouver à devoir la remplir, cette page blanche. On se dit pas tout de suite qu'on va faire quelque chose d'aussi introspectif, mais c'est en faisant la musique qu'on joue, et ça c'est la force de l'improvisation, puisqu'on improvise énormément. On découvre un peu la musique qu'on a fait a posteriori, et de quoi elle parle, c'est souvent une fois qu'on réécoute, et on s'est rendu compte, on a aussi eu la chance via cet album de rencontrer un vidéaste qui a tout filmé, donc il y a un documentaire qui va sortir sur ce projet-là. Et en fait, on se rend compte que c'est des questions qui sont très très profondes de qu'est-ce qu'on peut dire de nous, alors que Legacy, le premier album, il est là pour rendre hommage à tous ces artistes et tous ces courants qui nous ont vraiment marqués et influencés. Le deuxième album, on a eu envie d'être le plus honnête possible, presque comme une bouteille lancée, en disant on ne sait pas si cette aventure va continuer, mais en tout cas, on aura été honnête à fond. Et on a la chance d'avoir pu trouver encore plus notre public avec cet album. Et c'est un bonheur absolu de pouvoir le jouer sur scène, parce que c'est quelque chose de très profond. Et on y met, je sais qu'à chaque concert, on y met quelque chose d'autre qui nous appartient, qui parle de nous. Encore une fois, la force de l'improvisation fait qu'on joue avec le moment. Sur Legacy, on allait chercher beaucoup d'influence. On a écouté énormément de musique pour faire la nôtre, pour improviser. Sur Inwards, on s'est presque coupé de tout ça. On a énormément parlé. Et c'est ce qu'on voit bien dans ce documentaire-là, où c'est toute cette discussion-là. Une fois qu'on avait parlé pendant des heures, on arrêtait de parler et on allait jouer. Et en fait, c'est les discussions qui ont été les références de notre musique. Ce qui fait que il y a quelque chose de très personnel et très introspectif dans cet album-là.
Lâcher prise, tu disais, hein, improvisation, ce qui veut dire que je crois que ça vient de vous, ça, danser avec les instruments. C'est une très belle formule d'ailleurs. Ce qui veut dire que c'est concert debout, quoi. Les gens bougent, les gens dansent. C'est une volonté de votre part. Il faut que ça vive quelque part, hein, un concert.
Des concerts comme on veut, en fait. Vraiment, on n'a pas envie. L'idée de ce projet, c'est de surtout pas remettre une étiquette ou remettre des codes. C'est de faire cohabiter, encore une fois. Ce qui est beau, encore une fois, c'est que dans notre public, il y a une variété de personnes. Enfin, ça cohabite à tous les niveaux. Donc, on fait des concerts devant des gens assis, on adore ça. Typiquement, là, aujourd'hui, avec Nils, on est passé dans une scène avec des gens assis, on s'est dit, c'est super aussi de pouvoir jouer la même musique, mais autrement, l'improvisation nous permet de vivre un moment à chaque fois différent, et si c'est devant des gens assis, ça sera super, mais avec des gens assis devant, et du coup, on jouera différemment. Mais on espère, en tout cas, que l'espace qu'on crée avec la musique qu'on fait puisse permettre de vivre ces instants et ces moments de la manière qu'on a envie, sans les codes. En fait, l'idée, c'est de casser un peu tout ça, mais il y a rien de nouveau, c'est l'histoire de la musique, tout ça. En fait, les codes, ils sont faits pour être réinventés à chaque fois, de génération en génération, et c'est pas nous qui avons fait ça. Enfin, c'est encore une fois, il y a eu les Anglais qui sont venus avant nous, avant il y en a eu d'autres, et tout ça c'est un héritage qu'on porte. Donc, si les gens ont envie de s'asseoir, ils s'assoient. Si les gens ils ont envie de danser, et qu'ils se lèvent, c'est certainement pas à nous de d'imposer quoi que ce soit. On va juste faire la musique qu'on a envie de faire et les gens la vivront comme ils veulent. Bon bah alors.
Bon, le choix des invités quand même. Beaucoup de personnes caribéennes, hein, haïtiennes notamment. Donc et puis au niveau des voix, quoi. Comment vous choisissez les voix en fonction de tel ou tel morceau? Là, vous c'est clair dans votre tête. Vous vous dites, bah, telle personne, elle irait super bien avec ce morceau, avec ce type de texte, ou ça se passe autrement finalement?
Ça peut. Ça nous arrive de préparer des morceaux, des instrumentaux pour qu'on veut proposer à certaines personnes. Après, bien souvent, ça se passe absolument pas comme on veut. Et du coup, mais c'est pas grave, c'est super cool en fait, parce que c'est beaucoup. Ça vient beaucoup des rencontres qu'on fait, notamment la chanteuse, la Chérise, qui est sur notre album et qui était déjà sur un EP qu'on a sorti entre nos deux albums. C'est une chanteuse de Londres dont on était absolument fan. Et à qui on a proposé cette collaboration. Et ça, pour le coup, c'est des morceaux qui sont nés en studio. C'est vraiment, on s'est enfermés, on a bricolé ensemble. Alors que l'autre morceau, là, Another Galaxy, avec H.K. Henry, c'est totalement une autre démarche. Le morceau en soi, l'instrumental, il existait depuis 2-3 ans, qui aurait dû être sur notre premier album. Au final, ça s'est pas fait. Et on lui propose à ce moment-là, et lui, il nous envoie le truc à distance. Donc, à chaque fois, c'est une autre histoire, en fait. Mais ça dépend beaucoup de... C'est de l'approche qu'on a en fait avec les gens, des rencontres, quoi.
Dans les invités, il y a un qu'on connaît particulièrement, évidemment, c'est Laurent Barden, hein. Sans son tigre d'eau douce, mais néanmoins Laurent Barden, c'est encore un musicien très ouvert sur tout style d'esthétique, y compris le rock, lui, hein.
En fait, quand on fait un album, on a envie de jouer avec les gens qui font partie aussi. Je crois que sur cet album-là, le deuxième album, on avait envie de jouer à la fois avec les Anglais qui nous ont beaucoup influencés, donc la scène anglaise, on a beaucoup parlé de cette scène-là, mais on avait aussi envie de faire parler un peu la scène française, donc évidemment Laurent il en fait partie, il y a Léon Fall avec qui on est très très proche, on pense à Zach aussi qui est trompettiste, qui joue avec Léon, mais on a toujours aussi cette volonté de parler de là d'où on vient, et il y a des musiciens et des musiciennes avec qui on joue sur chaque album qui viennent de chez nous, de Strasbourg, de notre collectif en partie, mais pas que. Donc il y a toujours dans nos albums cette histoire-là, et chaque invité raconte quelque chose. C'est pas en tout cas des gens qu'on... Il y a pas une stratégie derrière. L'idée, c'est de se dire, voilà, ça représente quelque chose. Quand on va chercher des Anglais, il y a un symbole. Quand on joue avec des Français, c'est un autre symbole. Et quand on invite des Strasbourgeois et des Strasbourgeoises, c'est notre terre, donc il y a quelque chose qui nous touche sur le choix des invités à chaque fois.
Alors justement, tu parlais du collectif. Alors, on est où, la scène strasbourgeoise? Elle est très vivante, elle est diverse, elle est en pleine évolution, et le collectif reflète ces évolutions là
et c'est pas du tout objectif parce qu'on est strasbourgeois. Mais personnellement, j'ai toujours eu la sensation qu'il y avait une belle scène à Strasbourg. En fait, étant donné que c'est une ville, pour la taille de la ville, culturellement assez riche quand même. Pareil, c'est mon avis totalement personnel. Mais ça fait que aussi il se passe beaucoup de choses. Mais parfois, les groupes, les projets artistiques sont pas forcément voués à être exportés ou à sortir de la ville, ou parce que aussi il y a l'occasion de se présenter, il y a les endroits pour jouer. Aujourd'hui, je pense à une scène qui est très active en ce moment à Strasbourg, c'est dans la musique électronique. Il y a une grosse scène dubstep, notamment via les radios indépendantes à Strasbourg, via Zest Radio qu'on salue. Voilà, ça c'est ce qui se passe en ce moment. Il continue à avoir des jam sessions avec des super musiciens, musiciennes, et voilà, ça continue à perdurer. Nous, le collectif aussi, ça arrive qu'on fasse encore. Alors, on en fait évidemment moins qu'avant parce que on tourne bien beaucoup avec Émile Londonien, mais ça arrive qu'on se retrouve pour faire une soirée ensemble. Il y a aussi une chanteuse avec qui on a déjà collaboré, qui s'appelle Lara Issa, qui sort son projet tout bientôt, qui fait partie du collectif et avec qui on collabore très souvent avec Émile Londonien. Donc voilà, là, c'est pour te citer que ce qui me vient à l'esprit, mais il se passe encore pas mal de choses, ouais, à Strasbourg.
Quelques projets, j'imagine, des festivals cet été? Juste pour rêver un petit peu, là, vous avez quelques dates en tête?
Oui, bah là, ça vient de tomber. Donc, on est super contents. On part en tournée au Canada cet été, là. Donc, on fait le Montréal Jazz. Et le. Je sais pas si on peut l'annoncer. En fait, là, j'ai pris le micro, mais bon, au pire, ce sera en exclu. Montréal Jazz et d'autres dates au Canada. Mais oui, du coup, on est super contents.
Et. À Québec
et à Montréal.
Une question qui s'impose quand même, je n'osais pas la poser, mais je la pose quand même. Hein. Émile Londonien, aucun rapport avec Émile Parisien?
Non, non, il nous a volé notre nom et on est en procès avec lui parce que nous, voilà, il y a un lien logique avec la scène anglaise et lui, on ne comprend pas trop pourquoi il a choisi Parisien. Du coup, bah voilà, Émile, si tu nous entends, bah, ce serait cool de nous passer un message quand même. Rends-nous le nom, ouais. Voilà. Non, évidemment, en fait, ce nom, il a plusieurs significations. Il y a un clin d'œil évident à la scène anglaise. Il y a un clin d'œil évident à Émile Parisien, ouais. Qui, pour nous, c'était, au moment où on fait tout ça, un peu le symbole de la scène française. Tu parlais de Thomas de Pourquerie. Il s'inscrit là-dedans. Et puis, c'est une personnalité forte de cette scène-là. Donc, voilà, nous, ça, donc, il y a cette, ce voyage aussi dans ce nom-là qui nous faisait un peu rire. Mais justement, au-delà de ça, ce nom-là, il symbolise... en fait, c'est un peu une blague entre trois amis quand on va en studio. Au moment où on fait ce premier disque dont Nils te parlait, il n'y avait aucune vocation à ce que ça devienne notre projet de vie, que ça devienne sérieux, que ça devienne pro. Absolument pas. C'était un projet parmi X projets qu'on avait fait et qui avait pour vocation de rester dans notre disque dur, dans notre sac à dos. Un an après cette session studio, on sort et du coup, le projet, comme Nils t'a expliqué, ben, il nous échappe un peu. Ça se retrouve sur la BBC, on se retrouve à World Wide Festival. Le troisième concert, ou le quatrième, c'est à Montreux. Et tout d'un coup, nous, on réalise aussi, à travers tout ça, que ben, c'est nous, c'est notre musique, et c'est ce qu'on a envie de défendre. Donc, il est beau ce nom, parce qu'il évoque à la fois l'Angleterre, la France, mais surtout une blague entre trois amis, et il y a quelque chose de naïf et de très très sincère dans tout ça. Et je crois que ça nous accompagne encore, au-delà de... On va devoir défendre la scène anglaise maintenant à vie parce que c'est dans notre nom, mais c'est super parce qu'on vient de là. Mais je crois que plus particulièrement aujourd'hui, il raconte notre histoire à nous, l'histoire d'un collectif, d'histoire d'amis qui font de la musique sans avoir de volonté d'aller plus loin que de sortir de notre studio,
que de se faire plaisir.
Et du coup, voilà. Donc aujourd'hui, je crois que la signification qu'on a envie de lui apporter aujourd'hui, la vision de tout ça, elle est plus dans ce regard-là, dans cette histoire d'amitié, quoi.
Merci à vous.
Merci à toi.
Puis avec plaisir de vous découvrir, parce que j'ai jamais eu l'occasion de vous voir et de vous entendre sur scène. Donc vivement tout à l'heure,
ouais,
hein, sur une scène de musique actuelle, ma foi, c'est très bien aussi.
Hein. Ouais.
C'est pas Montreux, mais...
C'est très bien, ouais.
Ok, merci. Hein.
Merci à toi.
À l'instant, le groupe Coquelite, album Live Now, et le titre Wood en témoignage de cette musique délicatement teintée fusion et rafraîchissante. On poursuit nos coups de cœur musicaux avec Nguyen Le, qui prolonge inlassablement ses explorations, ici en trio pour son dernier album en date, Silk and Sand, une pépite de plus pour son auteur, adepte des aventures fusion jazz oriental. Il est fort bien accompagné par Chris Jennings à la basse et Rani Ikridja aux percussions, sans occulter plusieurs invités, dont l'excellent Sylvain Barou à la flûte et au doudou, extrait de ce Silk and Sand Red City. Thank you. Le JAV contrebande, la méga formation de l'école du Jazz Action Valence, composée de 25 musiciens, animée et dirigée par Pascal Berne, poursuit ses créations artistiques en éditant régulièrement des CD. Avec 21, il s'agit de l'enregistrement de la collaboration du JAV contrebande avec Nguyen Le en 2024, travail que l'on avait pu apprécier au festival Air de Jazz de Beauchastel. À l'instant donc, reprise d'une chanson de Frank Zappa, Watermelon in East Hay. Nous retrouvons le pianiste-compositeur Alfio Origlio avec l'album Secret Places, conçu et élaboré avec la chanteuse Celia Kameni, épaulé dans leur projet par Michel Alibo à la basse et Stéphane Edouard aux percussions. Titre proposé, The Secret Life of Plants, chanson écrite à la base par Stevie Wonder.
Thank you.
Alison Terra, à l'instant, un des projets de Pierre Lordet qui flirte ici avec les envolées progressives et les respirations atmosphériques, proposant une redéfinition toute personnelle du jazz aboli de ses carcans, selon les vœux du musicien créateur. Blue Salad Eating, issu du dernier album éponyme du groupe. C'est avec cette musique emblématique du thème de ce Crossroads que nous allons refermer cette page et cette émission. Je remercie bien sûr Gaël à la production de ce Crossroads, ainsi que Sylvie pour le montage de l'interview. On se quitte avec l'album Teozel Tapes, enregistré live de Marcus Miller, un des bassistes compositeurs les plus marquants de la scène contemporaine jazz fusion, reprise inattendue du tube Killing Me Softly, interprété en son temps par Carly Simon, chanté pour l'occasion par Leila Hathaway. Salut, à bientôt. Killing